Chapitre 20. Ma rencontre suivante avec Medvedev a eu lieu fin septembre, lorsque les chefs d'État et de gouvernement du monde entier se sont rassemblés à Manhattan pour l'Assemblée générale annuelle des Nations unies. Pour mon staff et moi, cette AG, comme nous l'appelions, représentait une course d'obstacles éreintante de 72 heures. Entre les rues bloquées et la sécurité renforcée, la circulation était encore plus infernale qu'à l'ordinaire, même pour l'escorte présidentielle. Presque tous les dirigeants étrangers voulaient un rendez-vous ou au moins une photo à rapporter. Il y avait des consultations avec le secrétaire général de l'ONU, des réunions à présider, des réceptions à organiser, des causes à défendre, des accords à négocier et une kyrielle de discours à écrire, dont une sorte d'état de l'Union à l'échelle globale que je devais prononcer devant l'Assemblée générale et que, en 8 ans, Ben et moi avons toujours achevé un quart d'heure avant que je prenne la parole. Malgré l'emploi du temps délirant qui m'attendait, la vue du siège des Nations Unies, avec son monolithe blanc élancé au-dessus de l'East River, a, comme chaque fois, ravivé chez moi quantité d'attente et d'espoir. Je devais probablement cela à ma mère. Quand j'avais 9 ou 10 ans, je lui avais demandé ce qu'était l'ONU, et elle m'avait expliqué que, après la Seconde Guerre mondiale, les chefs d'État avaient décidé de créer un lieu où ils pourraient se rencontrer pour résoudre pacifiquement leurs différends. « Les humains ressemblent beaucoup aux autres animaux », m'avait dit ma mère. « Nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Quand nous avons peur, quand nous nous sentons menacés, la solution de facilité, c'est de faire des choses stupides, déclarer des guerres, par exemple. Les Nations Unies permettent aux pays d'apprendre à se connaître et d'avoir moins peur les uns des autres. » Comme toujours, il y avait chez ma mère la certitude rassurante que, malgré nos instincts primaires, la raison, la logique et le progrès l'emporteraient toujours. Après cette conversation, les réunions de l'ONU ont commencé à ressembler dans mon esprit à un épisode de Star Trek, où les Américains, les Russes, les Écossais, les Africains et les Vulcains exploreraient l'univers tous ensemble. Ou bien à l'attraction It's a Small World de Disneyland, où des enfants à visage de lune, de toutes les couleurs de peau et vêtus de costumes chamarrés, chantent ensemble un air entraînant. Un peu plus tard, pour un devoir d'école, j'ai lu la Charte des Nations Unies, écrite en 1945, et j'ai été frappé de voir combien sa mission reflétait l'optimisme de ma mère. Préserver les générations futures du fléau de la guerre, proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux, créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une plus grande liberté. Inutile de dire que l'ONU ne s'était pas toujours montrée à la hauteur de ses nobles intentions. Comme cela avait été le cas pour sa devancière, la malheureuse Société des Nations, ses limites étaient déterminées par les plus puissants de ses membres. Toute action significative de l'ONU requérait l'accord des 5 membres permanents de son Conseil de sécurité, les États-Unis, l'Union soviétique, puis la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine, chacun détenant un droit de veto absolu. Durant la guerre froide, les possibilités d'accord étant faibles, les Nations Unies étaient restées les bras croisés pendant que les chars soviétiques entraient en Hongrie ou que les avions américains larguaient du napalm sur la campagne vietnamienne. Même après la guerre froide, les divisions au sein du Conseil de sécurité avaient continué à entraver l'action de l'ONU. Ces États membres avaient été incapables de mobiliser les moyens ou la volonté collective de rebâtir des États défaillants tels que la Somalie ou d'empêcher des massacres ethniques au Sri Lanka ou ailleurs. Ces missions de maintien de la paix, tributaires de troupes volontaires envoyées par les États membres, étaient systématiquement mal équipées et leurs effectifs insuffisants. Parfois, l'Assemblée générale dégénérait en étalage de postures hypocrites et de condamnations unilatérales d'Israël. À maintes reprises, les actions de l'ONU avaient été entachées par des scandales de corruption, pendant que des dictatures brutales, l'Iran de Khamenei ou la Syrie d'Assad, manœuvraient pour obtenir un siège au Conseil des droits de l'homme. Aux yeux du Parti républicain, les Nations Unies étaient devenues le symbole d'un mondialisme infâme, tandis que les progressistes critiquaient leur impuissance à lutter contre les injustices. Et pourtant, malgré toutes ces imperfections, je demeurais convaincu que l'ONU remplissait une fonction vitale. Ses rapports et ses conclusions incitaient parfois des États à s'amender et consolidaient les normes internationales. Grâce à son travail de médiation et de maintien de la paix, des cessez-le-feu avaient pu être négociés, des conflits évités et des vies sauvées. L'ONU avait aidé plus de 80 anciennes colonies à devenir des nations souveraines. Ces agences avaient contribué à sortir des dizaines de millions de personnes de la pauvreté, éradiqué la variole, pratiquement fait disparaître la polio et le ver de Guinée. Chaque fois que je pénétrais dans l'enceinte des Nations Unies, Pendant que les agents du Secret Service écartaient la foule de diplomates et d'attachés qui se pressaient sur la moquette des larges couloirs pour me faire signe ou me serrer la main, leurs visages reflétant toute la palette de formes et de teintes de la grande famille humaine, je me rappelais que chaque jour, entre ces murs, des centaines de personnes déplaçaient des montagnes, persuadaient les gouvernements de financer des programmes de vaccination et des écoles pour les enfants démunis, et sollicitaient le monde entier pour arrêter le massacre d'une minorité ou le trafic des jeunes femmes. La vie de ces hommes et de ces femmes, comme celle de ma mère, était ancrée à une idée exprimée par deux vers tissés dans une tapisserie suspendue sous le grand dôme de la salle de l'Assemblée Générale. Les êtres humains sont membres d'un seul corps, car ils sont créés d'une seule et même essence. Ben m'a appris que ces mots avaient été écrits au XIIIe siècle par le poète Saadi, une des figures les plus appréciées de la culture iranienne. Nous y avons vu une certaine ironie, considérant le temps que j'ai passé à l'AG des Nations Unies, à tenter de freiner le développement de l'arme nucléaire iranienne. De toute évidence, Khamenei et Ahmadinejad ne partageaient pas la douceur et la sensibilité du poète. Depuis que l'Iran avait rejeté ma proposition de pourparlers bilatéraux, il n'avait pas paru décidé à ralentir son programme nucléaire. Ses négociateurs continuaient de bloquer les réunions avec le P5 plus 1, martelant avec colère que leurs centrifugeuses et leurs stocks d'uranium enrichi n'avaient que des usages purement civils. Bien que mensongères, ces protestations d'innocence constituaient un prétexte suffisant pour que la Chine et la Russie persistent à empêcher le Conseil de sécurité de durcir les sanctions contre le régime. Nous continuions à plaider notre cause, et de nouveaux développements nous ont aidés à infléchir l'attitude des Russes. Premièrement, notre équipe dédiée au contrôle des armements, admirablement menée par Gary Samor, spécialiste de la non-prolifération, avait travaillé avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, sur une proposition originale visant à dévoiler les intentions véritables de l'Iran. Le pays devait envoyer son stock d'uranium faiblement enrichi en Russie, où il serait transformé en uranium hautement enrichi, puis transporté par la Russie jusqu'en France, où il serait converti en combustible conforme aux besoins civils légitimes de l'Iran, mais dépourvu de toute application militaire. Cette proposition n'était qu'une mesure provisoire. Elle ne touchait pas à l'architecture nucléaire de l'Iran et ne l'empêcherait pas d'enrichir son uranium à l'avenir. Mais en vidant les stocks existants, nous pourrions retarder d'un an le processus d'obtention de la bombe, ce qui nous laisserait le temps de négocier une solution plus durable. En outre, ce scénario, en faisant de la Russie un partenaire clé, montrait à Moscou que nous étions disposés à mettre en œuvre toutes les approches raisonnables vis-à-vis de l'Iran. Présentée lors de l'AG des Nations Unies, notre proposition a reçu l'aval de la Russie. Elle a même été surnommée « la proposition russe », avec pour conséquence que, lorsque les Iraniens l'ont rejetée au cours d'une réunion ultérieure du P5 plus 1 à Genève, ils ne se sont pas contentés de faire un pied de nez aux Américains. Ils ont aussi blackboulé la Russie, un de leurs derniers défenseurs. D'autre part, les relations entre l'Iran et la Russie avaient déjà été fragilisées par une information explosive que j'avais transmise à Medvedev et à Lavrov lors d'une réunion privée en marge de l'AG. Nous avions découvert que Téhéran était sur le point d'achever la construction d'une installation d'enrichissement secrète dans les entrailles d'une montagne près de la ville antique de Homme. Tout dans cette structure, sa taille, sa configuration et son implantation dans un site militaire, indiquait que l'Iran cherchait à protéger ses activités de la détection et des attaques, et rien ne correspondait à un programme civil. J'ai dit à Medvedev que nous lui montrions ces éléments avant de les rendre publics, parce que le temps n'était plus aux demi-mesures. Si la Russie ne donnait pas son feu vert à une réponse internationale forte, la possibilité d'une résolution diplomatique risquait de nous échapper. Notre exposé a paru secouer les Russes. Au lieu d'essayer de défendre l'Iran, Medvedev a exprimé sa déception envers le régime et admis qu'il fallait réajuster l'approche du P5 plus 1. Il est même allé plus loin par la suite en disant à la presse « Il est rare que les sanctions aient des effets constructifs, mais dans certains cas, elles sont inévitables ». Nous avons accueilli cette déclaration comme une surprise bienvenue, confirmant notre sentiment croissant que Medvedev était un partenaire fiable. Nous avons décidé de ne pas révéler l'existence du site de Homme lors de la réunion du Conseil de sécurité sur les questions de sûreté nucléaire que je devais présider. Certes, ce cadre emblématique aurait été le décor rêvé, mais nous avions besoin de temps pour briefer l'AIEA et les autres membres du P5 plus 1. Nous voulions également éviter toute comparaison avec l'exposé théâtral et plus tard discrédité de Colin Powell, dans le même cadre, au sujet des armes de destruction massive de l'Irak à l'aube de la guerre contre Saddam Hussein. Nous avons donc préféré transmettre nos informations au New York Times juste avant la réunion du G20 à Pittsburgh, qui aurait lieu à la fin du mois. Les retombées ont été galvanisantes. Des journalistes ont envisagé l'éventualité d'une frappe israélienne sur Rome. Des membres du Congrès ont réclamé une action immédiate. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le président français Nicolas Sarkozy et le premier ministre britannique Gordon Brown, j'ai insisté sur la nécessité d'une réponse internationale, mais refusé d'entrer dans les détails des sanctions pour ne pas acculer Medvedev avant qu'il n'ait abordé la question avec Poutine. En supposant que nous parvenions à conserver le soutien de Medvedev, il ne nous resterait plus qu'un obstacle majeur à franchir. Le scepticisme du gouvernement chinois, qu'il faudrait persuader de voter des sanctions contre son principal fournisseur de pétrole. « Ça a combien de chances de marcher ?» m'a demandé McFaul. « Je ne sais pas encore, » ai-je répondu. « C'est plus difficile d'éviter une guerre que d'en déclarer une. » Sept semaines plus tard, Air Force One se posait à Pékin pour ma première visite officielle en Chine. Nous avions reçu l'ordre de laisser à bord de l'avion tous nos appareils électroniques non sécurisés et de partir du principe que nos communications seraient écoutées. Même avec un océan entre nous, les services de surveillance chinois avaient des capacités impressionnantes. Pendant la campagne, ils s'étaient infiltrés dans le système informatique de notre QG. J'y avais vu un bon présage quant à mon élection. Ils étaient célèbres pour leur capacité à transformer à distance n'importe quel téléphone portable en enregistreur. Si je voulais passer un appel portant sur des questions de sécurité nationale depuis notre hôtel, je devais me rendre dans une autre suite équipée d'une skiff, une grande tente bleue déployée au milieu de la chambre qui émettait un étrange bourdonnement psychédélique conçu pour neutraliser les mouchards installés à proximité. Certains membres de notre équipe s'habillaient, voire se douchaient dans le noir, à cause des caméras que nous suspections d'être cachées dans toutes les pièces. Marvin, quant à lui, mettait un point d'honneur à se balader nu dans sa chambre, toute lumière allumée. Nous n'avons jamais pu déterminer si c'était un geste de fierté ou de contestation. L'audace des services de renseignement chinois frisait parfois le comique. Un jour que mon secrétaire au commerce, Gary Locke, se rendait à une réunion préparatoire, il s'est aperçu qu'il avait oublié quelque chose dans sa suite et a fait demi-tour. En ouvrant la porte, il a découvert deux femmes de ménage qui faisaient son lit pendant que deux hommes en costume lisaient attentivement les papiers laissés sur son bureau. Lorsque Gary leur a demandé ce qu'ils faisaient là, les deux hommes sont passés devant lui en silence et ont disparu. Sans lever les yeux, les femmes de ménage sont allées changer les serviettes dans la salle de bain comme s'il était invisible. Cette histoire a suscité gloussements et moues désapprobatrices au sein de notre équipe, et je suis certain qu'une plainte formelle a été déposée à un échelon diplomatique inférieur. Mais personne n'y a fait allusion lors de notre rencontre officielle avec le président Hu Jintao et le reste de la délégation chinoise. Nous avions trop d'affaires à traiter avec les Chinois, et nous les espionnions trop de notre côté pour souhaiter faire un esclandre. Cet épisode résume plutôt bien les rapports entre Washington et Pékin à cette époque. En surface, les relations dont nous avions hérité paraissaient relativement stables, exemptes des ruptures diplomatiques tapageuses que nous avions connues avec la Russie. Tim Geithner et Hillary ont très tôt rencontré leurs homologues chinois et mis sur pied un groupe de travail dédié aux diverses questions bilatérales. Pendant mes entretiens avec le président Hu lors du G20 de Londres, nous avions évoqué la continuation des politiques gagnant-gagnant qui profitaient à nos deux pays. Mais les tensions et la méfiance bouillonnaient depuis longtemps sous ces politesses diplomatiques, et pas uniquement sur des sujets précis, comme le commerce ou l'espionnage, mais autour d'une question fondamentale. Les conséquences du renouveau de la Chine sur l'ordre international et la position des États-Unis dans le monde. Si Pékin et Washington réussissaient depuis plus de 30 ans à éviter la guerre ouverte, ce n'était pas uniquement une affaire de chance. Dès les premières réformes économiques et l'ouverture décisive de la Chine sur l'Occident dans les années 1970, son gouvernement avait scrupuleusement suivi le conseil donné par Deng Xiaoping de cacher sa force et attendre son heure. Au lieu de se militariser, le pays s'était industrialisé. Il avait invité les entreprises américaines cherchant une main-d'œuvre bon marché à délocaliser leurs usines et avait choyé plusieurs gouvernements américains successifs jusqu'à obtenir un siège à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en 2001, augmentant par là même sa pénétration des marchés américains. Si le Parti communiste chinois maintenait un contrôle étroit sur la politique du pays, il n'essayait cependant pas de diffuser son idéologie. La Chine commerçait avec tout le monde, les démocraties comme les dictatures, et s'enorgueillissait de ne pas juger la manière dont les autres pays géraient leurs affaires nationales. Elle montrait les dents dès qu'elle sentait ses revendications territoriales contestées et s'agaçait de ce que l'Occident la critique sur la question des droits fondamentaux. Mais même sur des sujets aussi brûlants que les ventes d'armes américaines à Taïwan, les responsables chinois s'efforçaient de ritualiser les conflits. Ils exprimaient leur désaccord par des courriers, aux termes bien sentis, ou par l'annulation de rencontres bilatérales, mais ne laissaient jamais la situation s'envenimer au point de faire obstacle au flot de containers remplis de baskets, appareils électroniques et autres pièces automobiles « made in China » qui venaient garnir les rayons des grandes surfaces américaines. Cette stratégie de la patience avait permis à la Chine d'économiser ses ressources et d'éviter de coûteuses aventures étrangères. Elle lui avait aussi permis de dissimuler le systématisme avec lequel, tout au long de son essor pacifique, elle avait esquivé, dévoyé ou simplement piétiné presque toutes les règles du commerce international. Des années durant, elle avait recouru aux subventions étatiques, à la manipulation de sa devise et au dumping commercial pour abaisser artificiellement le prix de ses exportations et de sa main-d'œuvre. Son mépris des normes environnementales et du droit du travail servait le même objectif. En parallèle, la Chine mettait en place des barrières non tarifaires sous la forme de quotas et d'embargos. Elle pratiquait en outre l'espionnage industriel et exerçait une pression constante sur les entreprises américaines commerçant avec elle pour qu'elles lui remettent leurs technologies clés afin d'accélérer son ascension dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Pour autant, cela ne faisait pas de la Chine un cas particulier. Presque tous les pays riches, aussi bien les États-Unis que le Japon, avaient appliqué des stratégies mercantiles à diverses étapes de leur développement pour stimuler leur économie. Et du point de vue de la Chine, le résultat était incontestable. Une génération après les famines qui avaient causé des millions de morts, le pays était devenu la troisième économie du globe. Près de la moitié de la production d'acier mondiale et 20% des produits manufacturés, ainsi que 40% des vêtements qu'achetaient les Américains, provenaient de Chine. Ce qui était surprenant, en revanche, c'était l'absence de réaction de Washington. Au début des années 1990, des syndicats avaient alerté l'opinion sur les pratiques de plus en plus inéquitables de la Chine, et ils avaient été relayés au Congrès par un grand nombre de démocrates, principalement originaires de la Rust Belt, les États du Nord-Est frappés par la désindustrialisation. Le Parti républicain, lui aussi, comptait dans ses rangs des détracteurs de la Chine, un mélange de populistes traditionnels, tendance Pat Buchanan, qui enrageait de voir l'Amérique capituler devant une puissance étrangère, et de faucons vieillissants restés bloqués au temps de la guerre froide, qui s'inquiétaient de la progression d'un communisme sans foi ni loi. Mais sous Bush et Clinton, alors que la mondialisation passait à la vitesse supérieure, ces voix sont devenues minoritaires. Il y avait trop d'argent à gagner. Les entreprises américaines et leurs actionnaires raffolaient de cette main-d'œuvre attractive et des bénéfices qu'elle leur rapportait. Les agriculteurs américains raffolaient de tous ces nouveaux clients chinois qui achetaient leur soja et leur porc. Wall Street raffolait des dizaines de milliardaires chinois qui cherchaient à investir leur nouvelle fortune, et il en allait de même des hordes d'avocats, de consultants et de lobbyistes recrutés pour fluidifier les échanges croissants entre la Chine et les États-Unis. Même si la plupart des démocrates du Congrès continuaient à désapprouver les pratiques commerciales de Pékin, et bien que l'administration Bush ait déposé une poignée de plaintes auprès de l'OMC, lorsque je suis arrivé en poste, un consensus général avait émergé entre les élites qui façonnaient la politique étrangère des États-Unis et les principaux donateurs des partis. Au lieu de se replier sur le protectionnisme, l'Amérique avait tout intérêt à s'inspirer de la Chine. Si nous voulions rester numéro un, il fallait travailler plus, économiser plus et enseigner à nos enfants les maths, les sciences et l'ingénierie, ainsi que le mandarin. Quant à moi, mon opinion sur la Chine ne rentrait dans aucune de ces cases. Contrairement à mes soutiens syndicaux, je n'étais pas instinctivement opposé au libre-échange, et je ne croyais pas qu'il soit possible de revenir sur la mondialisation, pas plus qu'il n'était possible de couper Internet. J'estimais que Clinton et Bush avaient fait le bon choix en encourageant l'intégration de la Chine dans l'économie globalisée. L'histoire me semblait indiquer qu'une Chine pauvre et chaotique était plus dangereuse pour les États-Unis qu'une Chine prospère. À mes yeux, le fait qu'elle ait réussi à sortir des centaines de millions de personnes du dénuement extrême était une spectaculaire réussite humaine. Il n'en demeurait pas moins que la manipulation par la Chine du commerce international s'était trop souvent faite aux dépens des États-Unis. Si les suppressions d'emplois dans l'industrie étaient principalement dues à l'automatisation et à la robotisation, les pratiques chinoises, aidées par les délocalisations, en avaient accéléré le processus. L'afflux de marchandises chinoises sur le sol américain avait diminué le prix des téléviseurs à écran plat et contribué à contenir l'inflation, mais au prix d'une baisse des salaires des travailleurs américains. Je leur avais promis de me battre pour obtenir de meilleurs accords commerciaux et j'avais l'intention d'honorer cette promesse. Mais l'économie mondiale ne tenant plus que par un fil, je devais soigneusement peser le quand et le comment. La Chine détenait pour 700 milliards de dollars de dettes américaines et disposait d'imposantes réserves de change, ce qui en faisait un partenaire incontournable dans la gestion de la crise financière. Pour sortir les États-Unis et le monde de la récession, nous avions besoin d'une croissance et non d'une contraction de l'économie chinoise. La Chine ne changerait pas ses pratiques commerciales sans une action ferme de mon gouvernement. Je devais seulement veiller à ne pas provoquer une guerre commerciale qui plongerait le monde dans la dépression et desservirait les travailleurs que j'avais juré d'aider. En préparant notre voyage, mon staff et moi avons décidé de viser le juste équilibre, ni trop ferme, ni trop souple. Nous commencerions par présenter au président Hu une liste de problèmes que nous voulions voir réglés dans un délai réaliste, tout en évitant une confrontation publique qui risquerait d'alarmer des marchés financiers déjà frileux. Faute de réaction chinoise, nous ferions monter d'un cran la pression de l'opinion et nous engagerions des représailles, si possible dans un environnement économique moins fragile. Pour inciter la Chine à s'amender, nous espérions obtenir l'aide de ses voisins. Cela n'irait pas sans peine. Entre l'administration Bush qui ne s'était intéressée qu'au Moyen-Orient et le fiasco de Wall Street, plusieurs chefs d'État asiatiques en étaient venus à douter de la compétence des États-Unis dans la région. Pendant ce temps, plusieurs de nos alliés très proches, le Japon et la Corée du Sud par exemple, étaient devenus de plus en plus dépendants des marchés chinois et craignaient de se mettre leurs partenaires à dos. Notre seul atout était que, depuis quelques années, la Chine devenait trop gourmande, exigeant des concessions sans contrepartie à des partenaires plus faibles qu'elle, et menaçant les Philippines et le Vietnam pour obtenir le contrôle d'une poignée de petites îles stratégiques en mer de Chine méridionale. D'après les diplomates américains, ces tactiques brutales engendraient un mécontentement grandissant, ainsi que le désir d'une présence américaine accrue pour contrebalancer la puissance de la Chine. Profitant de cette ouverture, nous avons planifié des étapes au Japon et en Corée du Sud, ainsi qu'un sommet à Singapour avec les 10 pays composant l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, ASEAN. En chemin, j'annoncerai mon intention de reprendre le flambeau de l'ambitieux accord commercial entre l'Asie et les États-Unis que le gouvernement Bush avait commencé à négocier, en insistant sur le droit du travail et de l'environnement dont les démocrates et les syndicats avaient pointé l'absence dans les traités précédents, et tout particulièrement dans l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA. Nous avons expliqué à la presse que l'objectif principal de ce que nous avons plus tard nommé un pivot vers l'Asie n'était pas de contenir la Chine ou de ralentir sa croissance. Il s'agissait plutôt de réaffirmer les liens entre les États-Unis et cette région et de consolider les règlements internationaux qui avaient permis aux pays de la région Asie-Pacifique, dont la Chine, de se développer autant en si peu de temps. Je doutais que la Chine voie les choses du même œil.